Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
C'est un martyr de la liberté. Pour caricature, pour une photo.
On décapite quelqu'un ?
Mais on est où ? C'est pas l'islam, c'est pas la religion.
L'hommage des imams aux professeurs assassinés, leur colère devant la barbarie. Ils sont venus se recueillir devant le collège de Samuel Paty.
L'enquête progresse, on commence à y voir un peu plus clair dans l'enchaînement qui a conduit au drame.
Assez de paroles, des actes, demandaient une partie de l'opposition. Ce matin sur notre antenne, le ministre de l'Intérieur a réclamé la dissolution de deux organisations musulmanes, dont le CCIF, jugé trop proche de l'islam politique.
L'État et surtout l'éducation nationale, montré du doigt par les professeurs qui dénoncent son absence de soutien. Les proviseurs d'établissements ont justement rencontré aujourd'hui leur ministre Jean-Michel Blanquer.
La campagne pour la présidentielle aux États-Unis. Le 3 novembre, l'Amérique aura un nouveau président, Donald Trump ou Joe Biden. L'œil de notre correspondant Xavier Yvon dans ce journal.
Et l'œil d'Anissa Haddadi pour la météo. C'est tout de suite, Anissa, une journée qui sera plus agitée demain.
Oui, à cause de Barbara. Barbara, c'est une tempête qui nous arrive tout droit
du
Portugal. Joli nom, mais elle va souffler très fort demain dans le sud-ouest avec un épisode depuis Cévenol. Beaucoup de nuages sur l'ensemble du pays. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Trois jours après l'attentat contre le professeur Samuel Paty, l'émotion ne retombe pas à Conflans-Sainte-Honorine.
Oui, après les fleurs déposées par des élèves du collège et parfois accompagnées de leurs parents, la communauté musulmane a tenu à réagir aujourd'hui et à marquer son soutien, comme sa désapprobation bien sûr vis-à-vis de cet acte terroriste abominable. Une dizaine d'imams de la région parisienne se sont rendus devant l'établissement où Samuel Paty enseignait. Un geste fort, Hélène Terzian, vous êtes notre envoyée spéciale sur place.
Effectivement, une dizaine d'imams, celui d'Épinay, un imam du 15e arrondissement de Paris, sont tous venus déposer des bouquets de roses blanches qui se sont ajoutés à l'amas de fleurs qui s'accumulent désormais sur le parvis du collège. Un hommage à Samuel Paty qui s'est achevé par une prière de quelques minutes. L'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi, est à l'initiative de ce rassemblement.
C'est un martyr de la liberté. C'est un martyr. Il a enseigné la tolérance. Il est respect de l'autre. Pour caricature, pour une photo, on décapite quelqu'un. Mais on est où ? C'est pas l'islam, c'est pas la religion, c'est l'islamisme, c'est le poison de l'islam.
Et pour le combattre, l'imam de Drancy va justement dans le sens de la volonté de fermeté annoncée par le gouvernement. Il appelle aussi à un sursaut de la communauté musulmane. Aïcha est la maman d'un élève scolarisé dans le collège de Samuel Paty. De confession musulmane, elle salue l'initiative des imams aujourd'hui.
Ils ont raison, ils ont bien fait de venir ici. On prie, je vais prier avec eux s'il le faut. L'islam est une religion de paix. On ne peut pas tuer au nom de la religion, ce n'est pas possible. C'est horrible. Ce qui s'est passé, c'est horrible. Nous, musulmans, on ne cautionne pas cet acte.
Et les imams présents aujourd'hui appellent les recteurs des mosquées, tous les autres imams ainsi que les responsables associatifs à agir avant que d'autres actes barbares ne soient commis.
Hélène Terzian, en direct de Conflans-Sainte-Honorine, un hommage national sera rendu mercredi après-midi à la Sorbonne, cérémonie qu'Europe 1 vous fera vivre au cours d'une édition spéciale mercredi.
L'enquête, quant à elle, progresse lentement pour déterminer ce qui a poussé le terroriste à passer à l'acte.
Il a été abattu par les forces de l'ordre après avoir décapité le professeur. 15 personnes, dont 4 collégiens, sont en garde à vue ce soir. Il s'agit de comprendre ce qui a poussé le meurtrier à accomplir son geste, mais aussi s'il a pu bénéficier de complicité, Justin Morin.
Oui, effectivement, les enquêteurs cherchent à retracer les contacts qu'il a eus avant de passer à l'acte. C'est le cas, par exemple, d'une des personnes placées en garde à vue aujourd'hui, déjà condamnée pour des faits de terrorisme. Cette personne a déclaré spontanément avoir été en lien avec le tueur, mais on ne sait pas encore quelle influence elle a pu avoir. L'objectif, c'est aussi de savoir si l'acte était prémédité, si oui, depuis quand. Ses proches, également entendus par les enquêteurs, ont évoqué l'obsession du terroriste pour les vidéos du parent d'élève concernant le cours de Samuel Paty. Idem pour celle du militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, qui appelait à se mobiliser contre l'enseignant. Le tueur a même contacté le parent d'élève sans que l'on sache encore ce qu'ils se sont dit. Enfin, l'autre question, c'est celle d'une éventuelle aide financière. Ce qui est sûr, c'est que le tueur est arrivé devant le collège quelques heures avant l'attaque et qu'il a donné de l'argent à des adolescents, au moins 300 euros, pour qu'il aide à identifier Samuel Paty. Sur cette séquence, 4 collégiens sont ce soir toujours en garde à vue.
Merci Justin Morin.
Et c'est l'une des premières mesures que veut prendre le gouvernement, dissoudre les groupes, les associations qui prônent ou défendent un islam radical, voire extrémiste.
Invité sur notre antenne ce matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en a ciblé deux, Baraka City et le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Son directeur, Jawad Bacha, réagit vivement à cette menace.
C'est très choquant parce qu'il n'existe aucune base aujourd'hui pour justifier une telle mesure. Par contre, sur le plan de la communication du gouvernement, aucun étonnement puisqu'il est dans une continuité du discours d'extrême droite à l'égard des associations antiracistes. On ne sait pas ce qu'on nous reproche précisément. Il y a le contexte récent de l'attentat auquel je tiens à préciser que le CCIF exprime sa condamnation la plus totale. Et on nous reprocherait peut-être d'avoir enflammé les choses, entre guillemets, alors que nous n'avons aucun lien dans la communication de ces événements. Là, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est une attitude du gouvernement qui vise simplement à restreindre ses libertés, notamment de cette association qui est une association antiraciste, apolitique et religieux.
Jawad Bachar, le président du collectif contre l'islamophobie en France, avec Justin Morin.
Et puis reste la question sensible du retour en classe. Après les vacances scolaires, le gouvernement ne veut pas laisser traîner les choses.
Jean-Michel Blanquer a reçu les proviseurs des collèges et des lycées ce matin. Le ministre de l'Éducation nationale a tout mis sur la table, le plan d'action du gouvernement pour la rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint. Objectif, pas d'improvisation et surtout se montrer inflexible avec le respect de la minute de silence qui sera observée. Message reçu par la proviseure Sylvie Persson, secrétaire générale du CFDT.
La consigne ou le mot d'ordre, je ne sais pas comment on peut le qualifier, c'est plutôt de ne rien laisser passer. On sait faire aussi la différence entre ce qui va être de l'ordre de la provocation ce jour-là et qui aura une réponse éducative, y compris disciplinaire derrière. Il n'y a pas, je pense, de réponse unique à donner, mais effectivement, faire confiance aux équipes sur le fait qu'il faut renforcer la vigilance, ne rien lâcher et effectivement répondre à toute forme de provocation, qu'elle soit à haut bruit, j'ai envie de vous dire, ou à bas bruit. Et puis il y a ensuite l'éducation qui doit se poursuivre, rappeler ce qu'est la laïcité, ce qu'elle nous permet de vivre, comment elle nous permet de nous exprimer, revenir sur la liberté et construire et aider à la construction de l'esprit critique de nos élèves.
Sylvie Persson, proviseure et secrétaire générale du SGEN CFDT.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, sur Europe 1, la suite du journal de Christophe Lamarre. Et on est à 15 jours tout pile de la présidentielle aux États-Unis. On va retrouver chaque jour désormais Xavier Yvon pour son journal de campagne.
Et puis, Laurent Voulzy sort un nouveau titre.
Chouette, on adore Laurent Voulzy.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Il est 19h09. Merci à vous d'écouter Europe 1. C'est la suite du journal de Christophe Lamarre. Et J-15, et oui, ça y est, ça se rapproche, la présidentielle aux États-Unis. Et Europe 1 a décidé de vous raconter cette dernière ligne droite. Dans le détail, c'est le journal de campagne de Xavier Yvon.
I'm Joe Biden.
I'm Donald Trump.
And I approve this message.
And I approve this message.
Europe 1 live for the American elections.
Bonjour Xavier Yvon.
Hello, bonsoir à tous.
C'est le premier journal de campagne. Xavier, on va déjà commencer par un état des lieux.
Oui, alors Joe Biden est en tête dans tous les sondages, largement au niveau national, avec plus de 10 points d'avance, confortablement dans les états clés. Selon le site de référence 538, le démocrate a 88% de chances de l'emporter. C'était exactement ce chiffre pour Hillary Clinton en 2016, au même moment. Et justement, je voudrais vous faire écouter une archive pour relativiser tout ça. C'était mon journal de campagne il y a 4 ans, pile 15 jours avant le vote, comme aujourd'hui. Écoutez.
On est maintenant à 2 semaines de l'élection et pour les médias américains, la victoire d'Hillary Clinton semble ne plus faire de doute.
Oui, le tout dernier sondage lui donne 12 points d'avance sur Donald Trump. Le Washington Post estime même que Trump a, je cite, presque zéro chance de gagner. Aucun analyste ne voit comment Donald Trump peut remonter la pente, sauf événement extraordinaire qui ferait basculer la campagne ou si tous les instituts de sondage se trompent lourdement. Voilà, vous connaissez la suite de l'histoire, on va donc rester prudent. Il y a des différences quand même cette année. Les sondeurs disent avoir appris de leurs erreurs et donc être meilleurs. Et les écarts entre Joe Biden et Donald Trump sont constants depuis des mois, ce qui n'était pas le cas avec Hillary Clinton. Dans un email interne ce week-end, la directrice de campagne Biden a dit à ses équipes « Nous pouvons encore perdre ». Et tout à l'heure, dans une conférence au téléphone avec ses troupes, Donald Trump lui a dit « Nous pouvons encore gagner », ça vous résume l'état de la course.
Alors du coup, Xavier, à quoi vont ressembler ces deux dernières semaines de campagne ?
Eh bien, Donald Trump va continuer sa tournée de meeting devant des foules compactes, souvent sans masque. Il en a 2 prévues aujourd'hui en Arizona. Joe Biden, lui, va s'en tenir à ses événements plus modestes, pas vraiment de public, de la distance sociale, parfois des drive-in, pour marteler son message. Moi, je prends la pandémie au sérieux et je vous protégerai.
Et on termine avec le son du jour, Xavier.
Oui, alors dans ces meetings one-man show, Donald Trump est souvent en roue libre. Il assène toutes sortes d'arguments parfois surprenants, comme hier dans le Nevada.
If he comes in, the Christmas season will be canceled.
S'il est élu, Joe Biden va faire annuler la saison de Noël. Voilà, c'est cadeau. À demain.
C'est cadeau, effectivement. Donald Trump en roue libre, comme toujours. Merci à vous. C'était l'œil de Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en direct des États-Unis. Votre journal de campagne que l'on va attendre avec impatience tous les soirs, Xavier, à 19h10.
Un mot de sport, retour de la Ligue des Champions demain soir. PSG Manchester United et Rennes Krasnodar, soirée spéciale Ligue des Champions sur Europe 1, à suivre demain soir, bien sûr.
Et Christophe, on va terminer en musique. On adore ça, avec le retour de Laurent Voulzy.
Oui. Oui, mais un retour sans sa moitié, Alain Souchon. Mais Laurent Voulzy dévoile aujourd'hui un titre inédit avant la sortie d'un best-of en novembre. Et pour cette nouvelle chanson, l'artiste a été inspiré par une légende allemande.
Lorelai, c'est une légende allemande d'une femme qui est sur un rocher. Elle se sent maudite un peu parce qu'elle a des hommes qui la regardent, tombent instantanément amoureux d'elle, mais ils meurent en même temps. Et moi, je me suis servi du fait que le prénom est beau et qu'elle est sur un... Et à un moment, d'ailleurs, donc cette légende, elle va sur le rocher, elle se regarde dans le Rhin et en fait, elle voit ses yeux et là, elle tombe dans le Rhin et elle meurt. Et je m'adresse à elle en lui demandant « Ne vois-tu rien venir ?» Voilà.
Et nous, ce qu'on voit venir avec grand plaisir, c'est ce nouveau titre inédit de Laurent Voulzy, montage réalisé par Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1. C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe, on vous dit à demain.
À demain.